La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les fictions d'un pays nous permettent un accès sensible à l'inconscient, les impensés, les préjugés, les espoirs et les blocages de ce pays. C'est sur tout cela que la Compagnie des œuvres a choisi de porter son attention tout au long d'une série en 4 épisodes qui se penche sur 4 œuvres de fiction américaines, lesquelles nous attirent souvent du côté de Washington, mais également vers le sud des États-Unis. Washington, ce sera demain avec House of Cards, série politique mais également fantastique, nous dira Emmanuel Taïeb au cours de la dernière émission de ce cycle. Washington, nous y serons également au cours de notre premier épisode avec un retour sur l'œuvre de Capra et en particulier sur son film Monsieur Smith au Sénat dont Serge Chauvin nous a parlé, c'était lundi dernier. Enfin, hier, notre sujet était Le complot contre l'Amérique, roman de l'écrivain Philip Ross, analysé pour nous par l'universitaire Paul Lévy. Et aujourd'hui,
this picture was a great emotional experience for me, and I want to commend Mr. Selznick's courage and his determination to get the exact cast he wanted. I think you'll all agree with me. He had the absolutely perfect cast.
I know it's blood can. How it blood can. I have time.
Aujourd'hui, le sud des États-Unis, donc, pour évoquer le livre controversé de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. Nous serons bientôt en compagnie de Taina Tukunen, qui enseigne le cinéma et la littérature à l'université de Versailles-Saint-Quentin et à qui on doit le livre intitulé Demain sera un autre jour, le sud et ses héroïnes à l'écran, publié en 2013 aux éditions Rouge Profond. Mais avant cela, je voudrais commencer cette émission en évoquant la sortie d'une nouvelle traduction de cet ouvrage, et cela avec vous, Oliver Gallmeister. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur des éditions Gallmeister, spécialisé dans la fiction liée à la nature, le nature writing, comme on dit. Et vous venez donc de republier Autant en emporte le vent, un roman dont on ne peut pas dire que ce soit un livre de nature writing, si ?
La maison Gallmeister est surtout spécialisée en littérature américaine. Nous sommes la seule maison en France à ne publier que de la littérature du continent nord-américain. Et nous avons une collection de poche qui s'appelle Totem, qui publie un certain nombre de classiques. Et pour anticiper votre question, pourquoi republier Autant en emporte le vent ?
Question évidente que j'allais vous poser.
Voilà. Le sujet s'est posé lorsque les droits de celui sont tombés dans le domaine public au début de l'année. Bien sûr, on l'a anticipé il y a un certain temps déjà, de publier ou non ce livre. Et la question... a été assez vite réglé dans la mesure où, pour moi, Autant d'emporte le vent est un grand classique de la littérature américaine. C'est une très belle œuvre de fiction. C'est un roman féministe, pacifiste, crépusculaire. Et évidemment, il contient des passages et d'une vision du monde raciste. Mais ça n'est pas, pour moi, suffisant pour ne pas le publier, puisque par ma nature d'éditeur, je suis pas vraiment en faveur de la censure.
Ouais. Alors, vous avez choisi de le republier, mais vous avez surtout choisi de le faire retraduire avec un œil que j'imagine vous avez voulu nouveau. Et vous avez demandé à Josette Chiche-Portiche d'assurer cette traduction. Lui avez-vous donné des directives ou des indications ?
Alors, effectivement, il nous est apparu très vite qu'il fallait retraduire ce livre parce que la première traduction, qui datait de 1939, était par bien des aspects critiquables, pour pas dire...
Traduction de Pierre-François Caillé pour Gallimard.
Et surtout marquée par son époque. La seule directive qu'on a donnée à Josette Chiche-Portiche, qui a fait un travail absolument remarquable sur ce livre, c'est d'être fidèle au texte. Donc, il était absolument hors de question de réécrire les passages qui dérangent de manière à les édulcorer. Mais il n'était pas non plus question d'adapter... le parler des esclaves noirs ou la vision du monde professée par certains personnages à notre à notre vision du monde actuel, mais même de pas de disons qu'il fallait corriger dans l'ancienne traduction un certain nombre de travers de l'époque. Le parler des esclaves noirs était comme le dit lui-même le traducteur hein, dans sa correspondance avec Margaret Mitchell, du parler petit nègre.
Donc Pierre-François Caillé pour le coup.
Pierre-François Caillé, voilà, du parler petit nègre qui est absolument choquant à nos oreilles d'aujourd'hui et qui n'est évidemment pas dans la version originale puisque pour des raisons évidentes, historiques et géographiques, ça n'a pas lieu d'être.
Et je crois que d'ailleurs dans cette correspondance dont vous parlez, alors il faut expliquer que il y a eu des lettres qui ont été échangées entre l'autrice et Pierre-François Caillé au moment de la traduction française. Cette correspondance, on en lit aujourd'hui des extraits dans un poche folio publié par Gallimard, donc avec la première traduction, celle de Monsieur Caillé, et avec une préface de l'écrivain Jean-Marie Leclésio. Mmh. Donc eux, leur façon finalement de republier ce livre, ça a été de le contextualiser, alors que vous avez choisi de redemander finalement une traduction. Et par exemple, sur le parler petit nègre, Josette Chiche-Portiche a un petit peu modifié les choses. Dans quel sens?
Alors, en fait, la manière dont parlaient les esclaves noirs était un langage très frustre, évidemment, puisque les esclaves n'allaient pas à l'école, ne recevaient pas d'éducation formelle. Et Margaret Mitchell, dans son roman, les fait parler comme elle les entend. Josette a fait un travail de quasiment ethnographique pour retrouver la musicalité de ce langage-là, sans rajouter des fautes de syntaxe où il n'y en avait pas, sans se contenter d'enlever les R comme dans la précédente traduction, et pour retrouver une musicalité chantante en s'inspirant de beaucoup de choses qui avaient été faites au XIXe siècle, par Maupassant notamment, c'est un auteur qu'elle a cité, sans pour autant les faire parler comme des paysans français du XIXe siècle. Donc elle a essayé, comme pour tout le reste du livre et pour toutes ses traductions, de coller vraiment au texte original, aussi bien en musique qu'en syntaxe.
Alors, il faut dire de ce roman qu'il est un peu hors norme, d'abord par sa taille, c'est un roman très très long, et aussi parce qu'il est mondialement connu, 3 millions d'exemplaires ont été vendus depuis sa publication en 1936, et puis il y a eu une adaptation au cinéma par Victor Fleming en 1939 qui a aussi connu un succès absolument mondial. Ça, évidemment, ça change les choses. C'est d'ailleurs un totem, pour reprendre le nom de votre collection, parce que ce livre a eu une influence, de même que le film, on en parlera aussi, très importante dans la conscience, finalement, américaine et même mondiale.
Bien sûr. C'est d'autant plus important de republier ce genre d'œuvre pour permettre aux gens de se faire une idée par eux-mêmes de ce qu'était le regard d'une certaine Amérique sur une autre partie de l'Amérique à l'époque. Le livre a été écrit en 1936 par une jeune femme qui était sudiste, qui a grandi dans une famille sudiste, dont les deux grands-pères avaient fait la guerre de sécession, qui a elle-même appris la défaite du Sud alors qu'elle avait 10 ans, en 1910.
Qui a été apparemment traumatisée par cette révélation de
oui, exactement,
découvrir que le Sud avait perdu une guerre.
Elle s'y attendait pas du tout, elle avait été bercée par les récits héroïques de ses grands-pères que lui rapportait sa grand-mère maternelle. Et donc, en fait, lorsqu'on relit ce livre, on est bien évidemment dans la tête d'une jeune fille de 16 ans, l'âge de Scarlett au début du roman, et dans un roman écrit par une jeune femme de 26 ans, en 1926, à une époque où les femmes venaient tout juste d'avoir le droit de vote aux États-Unis en 1919, où les femmes en France ne l'avaient toujours pas. Et donc, il est évident que dans l'Amérique des années 20 et 30, qui sont la date de parution du roman, on est dans un pays raciste, on est dans le pays de la ségrégation. Et donc, cette jeune femme du Sud, donc, épouse les points de vue de son époque.
Ouais. Voilà. Alors, son père était un attorney, président de la Société d'Histoire d'Atlanta. En fait, ils sont tous passionnés par l'histoire dans la famille.
Ben, ils ont tous traversé l'histoire. Hein. Une fois encore, ces deux grands-pères ont été combattants du côté sudiste, hein, évidemment.
C'était des planteurs aussi
Alors écoutez, je ne crois pas. Non, en fait, ils se sont refaits après la guerre. Son grand-père paternel a vendu du bois pour aider à participer à la reconstruction d'Atlanta. Son grand-père maternel a travaillé dans l'immobilier, pareil, au moment de la reconstruction. Donc, ils ont fait fortune. Elle vient d'une famille très aisée. Mais ils ont été effectivement bien marqués par la guerre. Et lorsqu'elle a été enfant aussi, en 1906, Donc elle était petite, mais elle en a parlé puisqu'elle l'a raconté dans sa correspondance. Elle a assisté au massacre d'Atlanta lorsqu'il y a eu des émeutes raciales qui ont fait plusieurs dizaines, enfin entre 10 et 100 morts selon les décomptes plus ou moins officiels parmi la population noire d'Atlanta.
Vous avez dit tout à l'heure, Oliver Gallmeister, que c'était un livre féministe. Elle-même a fait des études. Elle a d'abord fait des études de médecine, qu'elle a dû interrompre en 1919 à la suite de la mort de sa mère, emportée par la grippe espagnole. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a pris son destin en main, vous diriez ça ?
Oui, complètement. C'est une jeune femme qui a mené une vie assez libre lorsqu'elle était à l'université, et même après. Elle a travaillé. Sa mère était suffragette. Elle a accompagné sa mère lors de manifestations pour le droit de vote des femmes alors qu'elle était adolescente. Et elle a toujours voulu travailler, s'émanciper. Et d'ailleurs, tout ce qu'elle a vécu, elle le met dans son roman.
Ouais. Elle a été également journaliste à l'Atlanta Journal. Et puis un jour, alors elle s'est mariée plusieurs fois. Elle a perdu d'ailleurs son premier mari à la guerre, ou son fiancé en 1918. Et puis un jour, elle a souhaité écrire un roman. Est-ce qu'on sait un petit peu quelle est la genèse de ce livre ?
Alors, moi non. Je n'ai pas trouvé d'éléments très précis là-dessus.
Je sais pas. On sait que c'est 3 années de travail ininterrompu, en tous les cas, et qu'elle a entamé la rédaction de ce travail en 1926.
Voilà, et que le roman est sorti en 1936, donc ça a mis beaucoup de temps avant que le roman ne sorte et ne rencontre le succès qu'on lui connaît.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire, Oliver Gallmeister ? C'est l'histoire de Scarlett O'Hara, une héritière qui perd tout.
En fait, c'est l'histoire d'un monde qui vit bercé par ses illusions d'opulence, de noblesse. On est au début du roman dans la plantation de Tara et on va suivre cette jeune héroïne qui a 16 ans, plusieurs soupirants, et qui batifole, qui voit absolument pas venir la guerre qui se profile. Et puis petit à petit, la guerre arrive et elle va devoir affronter cela. Alors qu'elle est très superficielle, très égoïste, assez antipathique, pour être franc, au début du roman, elle va se révéler plus forte que les circonstances et elle va prendre en charge sa famille et elle va travailler, elle va briser les tabous et les conventions, elle refusera de porter le deuil trop longtemps, elle s'occupera pas de ses enfants, elle voudra faire fortune alors que ça n'est pas du tout ce qu'on attend des femmes, et elle tracera son destin et elle portera sa famille à bout de bras. Donc c'est vraiment un livre, comme disait Margaret Mitchell, sur la résilience, la capacité à survivre et à résister.
Merci beaucoup Oliver Gallmeister d'être venu nous parler donc de la nouvelle traduction que vous publiez d'Autant en emporte le vent dans la maison d'édition qui porte votre nom. Vous restez avec nous évidemment, on va écouter à présent Taina Tukunen et on commence avec cet archive d'Annie Ernaux interrogée par Laure Adler en 2014 dans son émission Hors Champ.
Je l'ai lu d'un bout à l'autre. Oui, mais il est évident que les premières pages ont été très marquantes pour moi parce que je me suis identifiée à cette jeune fille qui allait au bal, qui allait évidemment rencontrer et épouser par malentendu Charles, et alors qu'elle est amoureuse de d'Ashley, et donc tout cela est resté très longtemps dans ma mémoire complètement figé, ainsi que la guerre de sécession qui m'avait beaucoup marquée. Tout ça est resté figé pendant presque 50 ans, puisque c'est seulement il y a 10 ans que j'ai voulu relire Margaret Mitchell, son livre, en me disant, mais il faut quand même que, puisque j'en parle, il faut que je sache si c'était finalement honteux d'avoir aimé ce livre. Eh bien, je l'ai relu et j'ai été très surprise parce que, évidemment, je ne pactise pas du tout avec sa vision du sudiste, de l'esclavage des Noirs, mais c'est une femme qui choisit Scarlett O'Hara, elle choisit sa vie. C'est une femme qui ne se laisse pas abattre par voilà, c'est pas une femme traditionnelle finalement. C'était vraiment, et je me souviens d'une parole de ma mère parlant au fond de Scarlett comme si c'était une personne qui existait réellement, et disant elle a bien joué sa boule. C'est la boule, c'était la boule de billard, quoi. Et cette phrase m'est restée en me disant c'est un modèle, donc voilà. Donc c'est le premier livre qui m'a fait vivre dans l'imaginaire.
Bonjour Taina Tukunen.
Bonjour.
Est-ce que c'est honteux d'aimer autant en emporte le vent?
C'est toujours un peu honteux, soyons clairs. Aimer de manière intégrale et sans réserve un ouvrage et ensuite un film, une adaptation filmique telle que Autant en emporte le vent, on ne peut pas ne pas sentir ne serait-ce qu'un pincement de culpabilité.
Et comme celui d'Annie Ernaux, alors?
Oui, oui, oui. On sentait dans sa voix même des hésitations, des trémolos par rapport à ses souvenirs de découverte. Oui, on est dans une, je dirais même, dans une série d'ambivalences par rapport à ce personnage qui, cela a été dit, est une figure par excellence de résilience et de résistance et d'opposition. Et bon sens, si les femmes, à la fin des années 30, avaient besoin d'autres modèles. Et Selznick, d'ailleurs, était bien conscient du fait qu'il fallait
proposer... Le producteur du film.
Oui, le producteur, et qui, bien sûr, choisissait les directeurs. Victor Fleming est le seul à être crédité dans les crédits du film.
Le réalisateur.
Oui, le réalisateur, mais il y avait aussi Sam Wood, George Cukor, etc. Et voilà, c'est un travail gigantesque aussi, à la fois sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan filmique. Et petite parenthèse, quelqu'un que l'on connaît bien, Fitzgerald lui-même faisait partie des scénaristes. Il y a une multitude de personnes littéraires donc qui sont derrière ce film sans être crédités. Voilà. Mais pour revenir à cette idée de culpabilité, oui, parce que soyons clairs, Scarlett, la femme écarlate sudiste, quand on dit femme écarlate, bien sûr, ça résonne déjà avec les puritanismes du Nord, les purismes du Sud sont d'un autre ordre, mais tout ça, ça, c'est une sorte, comme on dirait en anglais, un interplay, ça interagit énormément, ça participe à la création de tout un réseau qui continue à s'écrire à travers la littérature américaine et à travers le cinéma.
C'est quoi le purisme du Sud, si on voit bien ce que c'est que le puritanisme du Nord?
Oui, alors, bien sûr, vous savez, quelque part, là, je suis obligée d'être assez schématique dans ma propre présentation, je m'excuse d'avance. Il faut savoir que l'Amérique n'a jamais été le melting pot, le creuset d'où sortirait un produit standardisé. Ça a été toujours quelque chose de multiple, quelque chose de mis et remis sous tension, comme on le voit encore aujourd'hui, de manière extrêmement tangible. Il y a eu quasiment à la même époque, au XVIIe siècle, 1610 et 20, entre ces années-là, le lancement du projet puritain, Massachusetts, etc., les pères fondateurs.
Donc les Yankees, ceux du Nord.
Oui, on peut dire, voilà, l'enracinement. Et ce projet un peu de concurrentiel, si je me permettre, dans le Sud, vers l'état de cette installation ou tentative d'installation d'un autre type d'Amérique en Virginie. Oui. Et le nom même de l'état de Virginia, bien sûr, renvoie à la reine mère, la reine supposée vierge,
Elizabeth.
La grande Elizabeth Ière. Donc, on sait très bien que ça a débouché au milieu du 19e siècle sur cet énorme conflit fratricide dont les cicatrices ne sont toujours pas guéries aujourd'hui.
Quand les filles retournèrent à Tara, Scarlett garda le silence pendant un moment, réfléchissant à ce qu'elle avait vu dans les diverses maisons, se rappelant malgré elle le comté dans toute sa gloire, avec des visiteurs dans toutes les grandes demeures et de l'argent en abondance, des noirs plein les quartiers des esclaves et les champs bien entretenus tirant leur gloire du coton. Dans un an, de jeunes pins pousseront partout dans ces champs, se dit-elle. Et regardant en direction de la forêt qui les entourait, Elle frissonna. Sans les nègres, tout ce que nous pourrons faire, c'est avoir juste de quoi survivre. Personne ne peut gérer une grande plantation sans nègres. Et de nombreux champs ne seront plus du tout cultivés et les bois regagneront du terrain sur les champs. Que deviendront les gens qui vivent à la campagne ? En ville, on arrive à se débrouiller d'une façon ou d'une autre. On s'y est toujours débrouillé, mais nous, les gens de la campagne, nous retournerons 100 ans en arrière, comme les pionniers qui habitaient dans de petites cabanes et se contentaient de gratter quelques arpents et subsister à peine. Non, pensa-t-elle sombrement. Tara ne sera pas comme cela. Même si je dois labourer moi-même toute cette partie du comté, toute la Géorgie peut retourner à l'état de bois si elle le veut, mais je ne lâcherai pas Tara. Et je n'ai pas l'intention de gaspiller mon argent en pierres tombales ou mon temps à pleurer sur la guerre. Nous trouverons un moyen de nous en sortir. Je sais que nous pourrions nous en sortir si les hommes n'étaient pas tous morts. La perte des nègres n'est pas la pire dans cette histoire. C'est la perte des hommes jeunes.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Un extrait de temps, On emporte le vent par Michael Cohen avec le mot nègre qui irrite un peu l'oreille. Aujourd'hui, est-ce qu'il fallait le garder selon vous? C'est une traduction là de Josette Chiche-Portiche chez Gallmeister.
Je pense qu'il fallait le garder parce que autrement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu tout synthétiser, tout rendre tout censuré d'une certaine manière, tout marqué par le estampillé par le politiquement correct. Et c'est pas ça. Et je pense que là, ça rejoint cette question indirectement, rejoint la question de mise en cadre des films tels qu'Autant d'emporte-le-vent par des effets warning.
Faites référence à l'interdiction pendant quelques semaines de diffusion, enfin pas l'interdiction formelle, mais enfin
de la plateforme HBO,
de la plateforme HBO Max, qui maintenant l'a remis en ligne avec, disons, une petite explication, une remise en contexte.
C'est ça. D'ailleurs, ils l'ont précisé et souligné, il ne s'agissait dès le départ aucunement d'une tentative de censure, mais tout simplement d'une réflexion, surtout dans le contexte de l'été dernier, après le meurtre de George Floyd dans les mains de la police de Minnesota. Minneapolis. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce qu'il y a tout cet enracinement historique. D'ailleurs, Faulkner aussi, il y a bien d'autres grands auteurs américains, sudistes, qui utilisent ce terme, qui était utilisé encore assez couramment dans les années 50-60. Aujourd'hui, on dit N-word. Le mot haine. Oui. Donc, c'est une forme d'autocensure. Évidemment, les mots sont connotés, mais je pense effectivement qu'il fallait, avec toute l'ambiguïté, encore une fois, toute la complexité de ce terme, le maintenir dans la traduction.
Parce que finalement, c'est un document aussi.
C'est un
document d'époque.
Ceci dit, il faut quand même, lorsqu'on utilise ce terme documentaire par rapport à Autant en emporte le vent, il faut jamais oublier que les sudistes, dès la période esclavagiste, se mettent à utiliser la littérature et les arts pour réécrire leur histoire, pour proposer leur explication.
C'est du soft power, pourrait-on dire.
D'une certaine manière, si on veut, dans le contexte de l'époque. Mais évidemment, c'est quelque chose... Tout à l'heure, vous avez dit ces personnages traversent l'histoire. Je suis d'accord. Mais en même temps, ils travestissent l'histoire également. Donc, c'est toujours le double tranchant. Il n'y a pas qu'une manière d'aborder ces questions complexes.
On entendait aussi dans l'extrait comment on a le sentiment qu'il s'agit un peu d'une guerre de civilisation qui se joue entre le Nord et le Sud, avec cette idée d'un mythe du Sud qui a perdu la guerre, mais dont l'âme resterait invaincue. Et c'est peut-être ça que le livre et le film ensuite cherchent cherche à démontrer d'une certaine façon.
Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le mythe de la cause perdue, the lost cause. Et il faut savoir là aussi, je vais être obligée d'aller vite. En gros, les sudistes pro-esclavagistes défendaient l'idée, même au cours de la période de la reconstruction, donc après la guerre de sécession, après 1865, que finalement l'esclavagisme n'avait jamais réellement existé, que c'était une forme d'harmonie, une sorte d'utopie, coexistence harmonieuse et ordonnée entre non seulement les différentes races, mais aussi différents sexes et différentes classes sociales.
Donc c'est une forme de révisionnisme, évidemment.
Oui, c'était plus que ça. C'est parce que lorsque Harriet Beecher Stowe, en 1852, a écrit La case de l'oncle Tom, les sudistes littéraires également s'emparent de ce récit pour le détourner de telle manière que finalement, ce sont des effets tout à fait caricaturaux qui viennent subvertir et contredire totalement le propos abolitionniste de Harriet Beecher Stowe.
Donc ce qu'on reproche également à ce livre, Autant en emporte le vent, c'est une certaine forme de paternalisme et une manière de montrer des personnages noirs, esclaves, comme des gens loyalement attachés à une famille qui au fond serait bon envers eux, en conservant bien les places assignées aux noirs et aux blancs.
Oui, il y a d'ailleurs, ce n'est pas si vieux que ça, grâce au travail réalisé, qui continue d'être réalisé, notamment par les critiques de cinéma de couleur, qui ont systématiquement mis en évidence les différentes catégories et les évolutions également de ces catégories. Et il y a ce qu'on appelle the happy darky, le noir heureux, heureux d'être esclave, qui est bien sûr une aberration pure et simple. Mais ça fonctionne. Et c'est l'un des point le plus étonnant de ce film, qui continue à être visionné à travers le monde et continue à fasciner les spectateurs à travers notre monde, que de voir à quel point cette recette simple et totalement perverse fonctionne.
À l'église, maman accompagnait au piano. C'est moi qui chantais le mieux et le plus fort. Enfin, c'est maman qui le disait. Et le soir, où ils sont arrivés pour présenter leur film, Autant en emporte le vent. Toute la population d'Atlanta était là. J'ai vu Clark Gable, Olivia de Havilland, Vivian Leigh et Laurence Olivier. Tous ces blancs s'apitoyaient sur ce temps révolu avec la guerre de sécession. Il voulait se persuader encore que le bon nègre était un esclave soumis et que le mauvais nègre, un noir prétentieux et arrogant. Et moi, mon daddy, il m'apprenait au contraire à être fier. Il me disait « Personne ne pourra faire de toi un esclave si tu ne penses pas comme un esclave. »
We will be able to speed up that day when all the thoughts, children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
On vient d'entendre un extrait d'un texte de Martin Luther King, lu par Robert Liensol. Martin Luther King qui se remémorait la sortie du film « Autant en emporte le vent ». Et on a fait bien longtemps que ce texte est dénoncé par un certain nombre de représentants de la communauté noire. Ça fait seulement quelques années, au fond, qu'on prête une oreille à cette question des stéréotypes. Mais là, on entend bien dans ce texte que le film pose déjà problème à Martin Luther King.
À vrai dire, déjà lorsque en 1915 sort le premier film génial et absolument brillant sur le plan technique, qui est Naissance d'une nation de D.W. Griffith, mais absolument abominable sur le plan de la rhétorique raciale et raciste. Il y a déjà des oppositions. Aussi,
mais des oppositions qui sont quand même davantage justifiées parce que le film est bien plus raciste que Autant en emporte le vent.
Oui.
Or, on peut
oui.
considérer que à l'époque Autant en emporte le vent sort, il y a déjà un effort pour casser un certain nombre d'autres stéréotypes.
Absolument.
Des Noirs vus comme fourbes, comme méchants, comme prédateurs sexuels même. Il y a une attention à justement ne pas aller dans ces clichés-là.
Selznick fait très très attention de gommer tout effet qui risquerait d'offusquer et de froisser le public. Parce que, n'oublions pas, ça a toujours été du big business également, le cinéma. Donc, il souhaite aussi que les sudistes aillent voir ce film. Donc, par exemple,
et juste les Noirs un exemple, comme les Blancs, il a envie que le public soit le plus universel possible.
Juste un exemple, par exemple, lorsque Scarlett, qui est une femme entreprenante, elle prend sa carrosse, elle traverse une partie de Atlanta qui est un peu lugubre, etc., où elle ne devrait pas s'aventurer toute seule. Elle n'est pas, contrairement au récit romanesque de Mitchell, contrairement au roman, elle n'est pas agressée par les Noirs dans le film, mais par des white trash, c'est-à-dire des hommes blancs, si vous voulez, déclassés, qui n'ont plus rien à voir avec cette noble maître des plantations qui est érigé en exemple par ailleurs dans le film, type Ashley. Donc, vous voyez, il y a des effets de gommage. Il fait absolument très attention, Selznick, à ne pas offusquer. Et en même temps, ce qui est bien sûr au cœur du récit filmique, j'entends, c'est cette présence imposante, flamboyante, rutilante de la femme écarlate sudiste qui noie tout sur son passage.
Scarlett, le personnage de Scarlett.
Scarlett, bien sûr, Scarlett O'Hara. Elle n'est pas seulement écarlate d'ailleurs. Quand on regarde les variations et les modulations chromatiques dès le début du film, elle émerge dans le film. Nous nous en souvenons tous, bien sûr. Un seul visionnement suffit pour le voir dans sa, moi j'appelle ça la robe chantilly,
bien sûr. Sur le perron avec
les deux courtisans. Sur le perron encadré de ces deux Tarrington twins, des jumeaux. Elle est encadrée. Déjà, vous voyez, le patriarcat est présent. Et puis, le père.
Mais elle est au centre, enfin, elle est courtisée.
Elle est au centre, bien sûr, parce que cette figure iconique qu'est la Southern Belle est. C'est un mythe qui est au cœur de l'idéologie esclavagiste dès le milieu du 19e siècle.
On va revenir sur la Southern Belle. Belle, ce n'est pas la cloche, hein, c'est la belle en français, la belle du Sud. Vous avez un petit peu regardé de près le rapport entre les premières pages du livre de Margaret Mitchell et ce début du film dont vous parlez.
C'est ça, ça me permet de revenir à la palette chromatique justement que je viens de citer. Effectivement, contrairement au récit romanesque, dans le film elle apparaît en blanc, prête à être mariée, etc. Mais elle est d'emblée teintée de vert. Ses yeux sont verts, sa robe est verte. Et bien sûr, il y a non seulement la verdure, tout ce qu'elle peut représenter, le printanier, tout ce que vous voulez, mais aussi le côté irlandais. Irlande, terre de résistance vis-à-vis de l'envahisseur anglais. Et il ne faut pas oublier qu'en 1939, lorsque le film sort, bien sûr, nous sommes au seuil de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, et les Britanniques, les Anglais s'emparent de ce récit avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, Hitler l'interdit. Donc, c'est aussi...
Pour quelle raison ?
Je pense que... Voilà, il fonctionne comme un sous-texte. Tout à fait intéressant. Et donc, je crois que l'une des multiples raisons du succès qui perdure de ce récit, c'est que il est possible d'y projeter énormément d'enjeux anciens et contemporains, y compris des spéculations futures, qui sait. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une héroïne, que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants à qui j'enseigne le sud filmique, à l'université d'Angers d'ailleurs.
Ah, pardonnez-moi.
Je ne travaille plus à Versailles, j'ai eu ma période versaillaise, mais j'ai le plaisir d'enseigner à Angers. Effectivement, c'est une héroïne polymorphe. multicolores d'une certaine manière. Les variations des robes, d'ailleurs, ça crée un effet feuilleton à l'intérieur du film. Donc, évidemment, Selznick a fait le choix de la présenter d'abord en blanc. Ensuite, très rapidement, elle passe au noir, puisque c'est le premier veuvage. Ensuite, il y a... Je ne me souviens plus exactement dans quel ordre, mais il y a des références à son irlandité, si le mot existe en français. Effectivement, cette résistance incarnée. Et puis, bien sûr, là, quand elle est présentée telle une, la garce sublime de Babylone en rouge.
Et donc, le rapport avec les premières pages ?
Oui. Alors, effectivement, elle est ancrée, à mon avis, chez Margaret Mitchell, dans cette résistance européenne, quelque part, ou ancrée dans l'histoire de l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que pendant tout le 19e siècle, pendant toute la période esclavagiste aux États-Unis, l'auteur européen le plus populaire dans le sud des États-Unis était Sir Walter Scott. Donc, Roman historique, Ivanhoe, etc. Et puis, bien sûr, on l'a déjà vu à ce stade-là, en 1915, chez Griffith. C'est dans ce type de récit dont va s'inspirer plutôt le fondateur de Ku Klux Klan. Dans le film qui s'habille littéralement, on peut dire, de manière chevaleresque, autre perversion, si vous voulez, par rapport au récit héroïque européen.
Il est temps de leur faire comprendre que nous gardons nos esclaves, que ça leur plaise ou non. L'État de Géorgie avait formellement le droit de se séparer de l'Union.
Il a raison.
Le Sud doit défendre sa cause par les armes. Après avoir attaqué ces canailles des Yankees aux forces obtères, nous n'avons plus qu'à nous battre. Il n'y a pas 36 moyens.
La guerre, parfaitement, la guerre.
Les Yankees seront les premiers à demander la paix.
La situation était plus simple. Les Yankees ne sont pas prêts, nous le sommes.
Il n'y aura même pas de bataille, vous verrez ça. Ils s'enfuiront tous comme des lapins.
Elles se disent, au moins 20 Yankees.
Un seul combat suffira pour les écraser. Les gentlemen savent toujours mieux se battre que la crapule.
Oui, les gentlemen se battent toujours mieux que la crapule.
Qu'en pense le capitaine de nos troupes d'élite?
Eh bien, chers amis, si la Géorgie doit se battre, je me battrai aussi. Mais comme mon père, j'espère que les Yankees nous laisseront quitter l'Union en paix.
Voyons, Ashley, ils nous ont insultés. Ne dites pas que vous ne souhaitez pas la guerre.
La plupart des misères de ce monde sont causées par les guerres. Et quand les guerres sont finies, nul ne sait quels en furent les motifs.
Allons,
messieurs. Monsieur Butler revient du Nord, je crois. Êtes-vous de notre avis, monsieur Butler?
Je crains qu'il ne soit difficile de gagner une guerre avec des mots.
Que signifie, monsieur?
Uniquement, monsieur Hamilton, qu'il n'y a aucune fabrique de canons dans le Sud.
Quelle importance cela a-t-il, monsieur, pour un gentleman?
Je crains fort que ça n'ait une importance considérable pour la plupart des gentlemen, monsieur.
Insinuez-vous, monsieur Butler, que les Yankees seront vainqueurs?
Non, je ne veux rien insinuer. Je me rends compte malheureusement que les Yankees sont bien mieux équipés que nous. Ils possèdent des fabriques, des charbonnages, des chantiers navals et une flotte pour nous bloquer dans nos ports et nous réduire à la famine.
Ce film, tout comme le livre d'ailleurs, Taina Tukunen, c'est l'histoire d'une certaine culture, d'une certaine civilisation, pourrait-on dire, qui serait celle du sud des États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est exactement que le sud ? Géographiquement, déjà, c'est une quinzaine d'États, mais c'est surtout historiquement que le sud se construit, avec la guerre de sécession qui est au cœur d'autant en emporte le vent.
Oui, parce qu'il y a cette véritable volonté de créer un État confédéré, un État, un pays à part, qui s'opposerait et qui se constituerait comme une entité. Évidemment, les nordistes ne souhaitaient pas, Lincoln en tête, que le projet sudiste se prolonge vers l'ouest. On est encore à la période au cours de l'histoire américaine où la conquête absolument dans l'État de Texas qui est esclavagiste, il y a très peu de monde par rapport à aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, excusez-moi pour l'amalgame, parce que bien sûr face à l'actualité, il est quand même intéressant puisque nous avons beaucoup parlé de la manière dont les couleurs, notamment le couleur rouge est emblématique, emblématise et symbolise le personnage féminin au cœur de ce récit. Le rouge est encore gagnant aujourd'hui dans le Sud. Le parti républicain. Oui. Et bien sûr, on a vu les cravates rouges portées par Trump et bleues par Biden.
Alors, comment la guerre de sécession, Oliver les sudistes étaient démocrates?
Oui.
C'est le paradoxe.
Alors, les États-Unis d'Amérique ne sont pas à un paradoxe près.
Alors, pour revenir quand même sur un petit peu cette définition du Sud, dont on a vu qu'il avait historiquement et géographiquement un sens, est-ce qu'il existe un Sud cinématographique?
Alors, c'est un peu l'enjeu de mon ouvrage, même si évidemment je suis disons, l'apparition de, et puis l'évolution du Sud filmique à travers, en traquant les personnages féminins. Mais évidemment, il faudrait élargir, il faudrait cartographier le terrain. Mais je pense que la question est tout à fait pertinente. Et lorsqu'on pense au récit, sorte master narrative, grand récit, et d'ailleurs master narrative, pas mistress narrative, comme on pourrait dire à
le
propos de, pour les récits du Sud, qui sont centrés effectivement, ou disons conditionnés en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie par la présence très forte des personnages féminins, il serait tout à fait intéressant d'aller plus loin dans ces comparaisons et de voir comment, ça me paraît tout à fait pertinent et important de le rappeler, tout ne s'arrête pas aux grands classiques films, entre guillemets classiques, tels que les films que nous avons cités, puisque dès les années 40, 50, il y a énormément de films qui continuent à réfléchir
encore
sur le mode de construction des classiques.
Il y a un cinéma du Sud aux États-Unis encore aujourd'hui?
Moi, je suis persuadée.
Ce serait quoi?
Alors, ça serait, là aussi, peut-on résumer un grand trait. Je pense que l'un des mots clés que nous avons entendu au cours de ce dialogue, c'est la résistance. Et tout d'un coup, je pense aussi à la présence, à travers ces films, d'un emblème extrêmement controversé et compliqué, qui est le drapeau confédéré. J'ai dit il y a quelques années lors d'un colloque à des collègues que ce drapeau, ce tissu qui est profondément ancré dans le racisme sudiste et dans le ségrégationnisme et dans le suprématisme est tout à fait donc un objet idéologique, mais en même temps, la manière dont il continue à réapparaître et de manière ponctuelle dans des films, dans d'autres films, de manière parfois assez fugace, semble laisser entendre, je ne fais que spéculer, je n'affirme rien, tout simplement, semble suggérer qu'il s'agit d'un Sud qui est une forme de rébellion ou de résistance à réclamation de remise en question des fondements américains.
Alors, j'aurais bien aimé avoir juste un exemple d'un film qui aujourd'hui serait un film du Sud, si vous avez un titre à nous donner. Mais
je vais vous dire une chose. Plutôt que de raisonner en termes de catégories fixes et hermétiques et étanches, le cinéma contemporain est plutôt, disons, suit une idée de l'idée de porosité. Il y a énormément de chevauchements, de même que Autant n'importe le vent interagit. Bien sûr, c'est un mélodrame à la base, mais il y a aussi beaucoup d'autres enjeux génériques. Mais pour revenir à votre question, un exemple de... Vous vouliez que je vous donne
D'un film qui serait aujourd'hui d'un Sud cinématographique, mais
je pense que
avancer,
et d'ailleurs, c'est ce que je dis un peu dans ma conclusion, si je me souviens bien. Je me résolus plutôt à dire que ce sont plutôt des sudismes que des catégories étanches. Voilà.
Alors, pour revenir à Autant n'importe le vent, il y a dans le générique du début que vous décrivez très bien, Taina Tukunen, une espèce de fond qui serait un fond de l'ordre du conte, qui viserait à donner du Sud une espèce de nostalgie un petit peu mythique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce générique-là?
Au fait, la manière dont on voit les pages du récit de Mitchell s'ouvrir au début du film de Selznick, c'est aussi un procédé quand même assez classique pour les adaptations. C'est pour rappeler, c'est une sorte d'hommage visuel au texte préexistant déjà là. Mais en même temps, c'est un rappel de ce pays, ce Southland générique, ce projet qui...
Complètement mythifié.
Oui, mais auquel qui est enrobé d'une nostalgie. Et il a quelque chose d'extrêmement naïf et enfantin et en même temps charmant dans le sens ravissement, vous voyez, du terme.
Qu'on retrouve avec la musique aussi, qui est un
absolument,
peu sérieuse.
Absolument, Max Steiner, c'est très très fort. D'ailleurs, c'est un mélodrame. Qui veut dire mélodrame veut dire drame avec musique.
Tenez-vous bien, respirez pas.
Maman, voilà de manger ma pelle.
Tout remporter à la cuisine, je n'y toucherai pas.
Vous aussi, vous mangerez. Vous mangerez jusqu'à la dernière bouchée.
Mais non!
Aide-moi à mettre ma robe, nous sommes déjà en retard.
Quelle robe va mettre, mon petit ami?
Celle-là.
Non, rien à faire. Vous n'avez pas le droit de vous décolleter avant 3h de l'après-midi. Je vais dire à votre mère, vous êtes insupportable.
Si tu dis un seul mot à ma mère, je refuse de manger.
Allons. Gardez votre châle sous les épaules. Je ne veux pas vous voir toutes ces taches de rougeur. Je me suis donné bien trop de mal à vous les soigner au petit lait cet hiver pour vous les faire passer. Oh, voyons, Mlle Scarlett, soyez mignonne et mangez au moins quelque chose.
Non! J'ai l'intention de bien m'amuser aujourd'hui et de manger comme un ogre au pique-nique.
Si ça vous est égal ce que les gens peuvent penser de votre famille, pas moi. Oh, je vous ai dit et redit. Que pour avoir l'air d'une jeune fille convenable, il fallait manger en public comme un petit oiseau. Et moi, je tiens pas à ce que vous alliez chez M. Jonesville pour vous tenir comme une fille de ferme et vous gaver comme un goy.
Ta-ta-ta! Ashley Wilkes m'a dit qu'il aimait les femmes qui avaient un solide appétit.
Ce que les messieurs disent et puis ce qu'ils pensent, c'est pas la même chose. Et je me rappelle pas que M. Ashley vous ait demandé en mariage.
Nouvel extrait du film. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette scène, Taina Tukunen, où on entend donc ce dialogue entre Scarlett O'Hara et Mama, donc son esclave, qui est aussi sa gouvernante?
Il se trouve que je suis restée sur votre cogiter sur votre interrogation préalable. Je vais juste revenir. Allez-y. Parce que je Allez-y. Sentais que j'étais pas très concluante ou persuasive tout à l'heure. Je pense que ce qui sépare le Southern, si un genre tel que Southern doit exister, c'est que c'est une réflexion sur ce qui est toujours déjà là, contrairement au Western, qui est toujours dans, non pas dans le topos statique, quelque chose qui macère, qui, comme les Southern swamps, les marécages sudistes, auquel se réfère d'ailleurs souvent Trump aujourd'hui.
Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la tradition, tout simplement, dans le Sud, une tradition qui finalement relie à l'Europe d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quelque chose de très européen finalement, oui, dans la vision du monde des planteurs.
C'est pour ça que Sud, le Southern, est un projet générique insupportable, parce qu'il révèle l'échec de l'Amérique d'être dans la création de quelque chose de totalement nouveau. Le Sud montre que l'Amérique n'a jamais totalement tourné le dos vers les hiérarchies européennes, vers les formes de corruption.
Vers l'espèce d'aristocratisme aussi, de classe sociale.
Absolument. Regardez, regardez comment se construisent les maisons néoclassiques des planteurs dans les films, qui ne correspondent absolument d'ailleurs pas à la réalité historique. Oui. Il n'y avait qu'environ 1% de planteurs qui avaient des esclaves.
Alors, il y a un mot que vous utilisez pour décrire la Southern Belle, donc la fille du Sud dans les films, c'est la galanterie. Et le mot de galanterie, c'est quand même un mot qu'on a beaucoup entendu dans le contexte MeToo, en disant, voilà, il y a une partie en Europe et en France en particulier de personnes qui revendiquent la galanterie. Est-ce que vous avez l'impression que là encore, on peut faire une analogie entre ce vieux Sud et la vieille Europe?
Oui, parce que dans le vieux Sud, ce qui fait le charme aussi auprès des spectateurs américains, c'est une Amérique qui est très codée, très conventionnée et très civilisée. Et évidemment, l'un des mystères de ce récit, c'est ce récit plus globalement qui déborde le récit de Margaret Mitchell, c'est comment se fait-il qu'il y a eu dans un pays, dans le premier pays démocratique, inspiré de Lumières, qui fait coexister une extrême sophistication et une extrême barbarie.
Oui. Absolument. Oui. Alors que les unionistes, les Yankees, sont tout le temps dans le mouvement, c'est ça que vous disiez, et c'est
oui,
en particulier la question de la conquête de l'Ouest. Donc il y a deux Amériques, il y a deux types de films américains.
Et deux types de paysages aussi, si on regarde la construction, pas seulement la typologie des personnages, mais la typologie des paysages. On n'est jamais dans un lieu aride, le Sud c'est humide, c'est étouffant. C'est une Amérique qui s'étouffe.
Est-ce qu'on peut terminer sur la question des hommes qui entourent Scarlett et du rapport de Scarlett justement avec ces hommes? Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Parce que c'est quand même aussi une histoire sentimentale, une histoire d'amour.
Oui, c'est une sacrée condensation, c'est une sacrée composition. Et je pense que comme Margaret Mitchell était une figure de transition, il y avait un côté flapper, new American woman, femme nouvelle.
Garçonne,
on peut dire ça, absolument. Fille de suffragette, comme ça a été dit. Mais en même temps, ancrée aussi dans le 19e siècle. Et donc, Scarlett a sans doute cela de Margaret Mitchell. Et donc, encore une fois, ce côté pluriel. J'ai déjà évoqué ce côté couleur et ces multiplicités.
Mais vraiment
sur quoi vous dire? Bien sûr, de ce point de vue-là, elle est moderne. Elle choisit. En même temps, il ne faut pas oublier, je terminerai peut-être là-dessus, on est encore dans une période classique du cinéma américain où la femme doit être punie pour sa liberté. Donc, elle est renvoyée, nous le savons tous, à Tara. Elle ne peut pas suivre Rhett Butler, qui sait, en disant « I don't give a damn ».
Je m'en fiche.
Je m'en fiche, c'est le moindre de mes cadets, ce que tu vas faire dans ta vie. Lui, il a sa route devant lui, sauf qu'il se plonge dans un brouillard. Mais qui sait, il y a peut-être un espace westernien qui l'attend. Mais notre Scarlett, elle est quand même cantonnée de nouveau dans un espace clos.
Mais vous évoquez peut-être un petit peu une sorte de guerre des sexes dans ce récit. Où est-ce que vous la voyez, la guerre des sexes, rapidement?
La guerre des sexes, je ne sais pas si je le formulerai comme ça. Je crois quelque part que tout ça relève aussi d'une sorte de fantasme. Déjà dans les années 30, les femmes voulaient d'autres types de récits. Voilà ce qu'on leur propose avec cette idée de sanction à la fin. Mais c'est un peu comme si, l'autre jour je me suis dit, c'est un peu comme si on se réveillait en disant « ok ». Voilà, un peu comme dans le film de Woody Allen, Midnight in Paris, où tout d'un coup le personnage se trouve dans Paris du 19e siècle. C'est un peu comme si moi, femme contemporaine, je me trouvais d'un seul coup dans le 19e siècle.
Dans le passé.
Et évidemment, je ferais des gaffes. Il y aurait des chocs et des conflits, puisqu'on ne fonctionne plus pareil aujourd'hui qu'on faisait au 19e siècle.
Merci beaucoup, Taina Tukunen. Votre livre « Demain sera un autre jour, le Sud et ses héroïnes à l'écran » a été publié aux éditions Rouge Profond. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique aujourd'hui un peu particulière en partenariat avec la chaîne Arte qui diffuse en effet une série de documentaires intitulée Les grands romans du scandale, parmi lesquels on retrouve le vôtre, Grégoire Paulet. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, il s'agit d'un documentaire sur le roman Les Misérables de Victor Hugo. Qu'est-ce qui est vraiment scandaleux, selon vous, dans ce roman ?
Mais disons que ce qui a fait scandale dans Les Misérables, c'est que ça a paru directement un roman dangereux. On y a vu le danger. Pourquoi ? Parce que le personnage sous-jacent, en fait, de ce roman, ce n'est pas Valjean, ce n'est pas Cosette, c'est la barricade. Et le roman entier est animé par cette énergie, cette hypothèse, cette possibilité de la barricade, c'est-à-dire de l'insurrection, de la légitimation de l'insurrection. Et c'est cela qui a véritablement choqué, effrayé même, les contemporains, et qui, à vrai dire, continue d'être encore aujourd'hui la charge explosive du roman.
Vous pensez qu'il est encore scandaleux de nos jours ?
C'est ça qui était très intéressant dans ce travail, en fait, c'était de découvrir à quel point, vous voyez, il y a de nombreux romans qui ont fait scandale à leur époque, et puis après ça s'est un peu étouffé, et ils vivotent, on va dire, un peu dans les coulisses comme ça de la postérité. Et puis certains romans très rares ont fait scandale, ont paru dangereux, et pourtant sont devenus des grands classiques. Et en devenant des grands classiques, ils acquièrent une sorte de blindage, qui les fait passer inaperçus et qui leur permet de transporter à travers le temps et jusqu'à aujourd'hui leur charge explosive. Or, justement, on se rend bien compte aujourd'hui encore, et je pense que les intervenants dans le film le font bien remarquer, de l'actualité brûlante de cette question. L'ordre face à l'insurrection possible. Est-ce que l'insurrection est un droit démocratique ? Bien sûr, la revendication l'est, mais est-ce que l'insurrection, la barricade, la violence ? Et donc, cette question-là que Victor Hugo a eu énormément de mal, énormément de difficultés à oser aborder, est au centre du roman et continue d'être véritablement une braise, quelque chose de lumineux, de brûlant.
Qu'est-ce que vous avez appris aussi sur Victor Hugo que vous ne saviez pas déjà ?
Alors, ce que j'ai appris... c'est même carrément une grande surprise. C'est-à-dire que j'imaginais Victor Hugo, un peu comme tout le monde, je pense, monolithique, une célébrité presque en marbre, comme ça, cette icône du Victor Hugo barbu. Alors qu'en fait, il s'agit d'un homme qui s'est transformé radicalement. C'est-à-dire que son début de carrière, il est à l'opposé de ça. Et il va devenir... en écrivant Les Misérables, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un écrivain qui se transforme en écrivant un roman. Et en écrivant ce roman, il découvre qu'en fait son positionnement politique est en porte-à-faux avec ses convictions profondes. Et en écrivant Les Misérables, il se rend compte qu'il va devoir se ranger du côté du peuple et non plus du côté de l'ordre. Ce qui l'effarouche tant qu'il va interrompre l'écriture de ce roman, lui qui écrivait tant et si bien et si vite, il va l'arrêter, il n'osera pas le reprendre, il va le reprendre et puis à nouveau l'abandonner. Et pendant 10 ou 15 ans, il va subir cette espèce de transformation intérieure que le roman va en quelque sorte piloter, et finalement, il va virer sa cutie, comme on dit, et se résoudre à terminer ce roman, et en même temps terminer sa transformation intérieure, et à devenir le romancier, que l'on connaît.
Et voilà, qui nous donne envie. Pardonnez-moi.
C'était passionnant.
Voilà qui nous donne envie de regarder votre documentaire à la fois sur le site internet d'Arte et aussi sur la chaîne Arte. C'est ce soir.
C'est ce soir, absolument, 22h45.
Merci beaucoup, Grégoire Paulet. Et c'est la fin de La Compagnie des œuvres, une émission qui vous était proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Lila Bozès, Romain Billet et Anthony Thomasson. Demain, on termine notre cycle sur la politique américaine en fiction avec Emmanuel Taïeb qui viendra nous parler de la série House of Cards qui met en scène le terrible couple présidentiel des Underwood.